Je tiens d'abord à remercier chaleureusement M. Stanislas Trinsoutrop pour sa confiance et lui dire quel souvenir merveilleux je garde des années voltairiennes. En même temps, je suis très heureux d'être membre d'honneur de l'association. Je réponds aux 10 questions qui m'ont été faites. Dans quelle période j'ai enseigné au lycée Voltaire de 1947 à 1966? Quand est-ce que j'ai commencé à animer des ciné-clubs? Eh bien, à mon premier poste, après avoir été reçu à l'agrégation, à Toulouse, en 1945. Je dois dire que l'accueil des enseignants a été totalement négatif, à tel point que, quand j'ai demandé qu'on passe des circulaires dans tous les lycées, les professeurs se sont abstenus de répondre. Ce qui fait que, ayant loué une salle très grande, j'ai eu une sombre nullité au point de vue des élèves, à peu près une trentaine. J'étais pratiquement ruiné et après j'ai recommencé en faisant ma publicité moi-même. Alors là, c'était vraiment une réussite. J'ai passé des films de tous ordres, des films américains, des films français et surtout dans les classes, se continuer ce que j'avais essayé d'apprendre à mes étudiants. Alors, quand je suis revenu à Paris, est-ce que j'ai eu le soutien d'administration? Oui, très bien. Un proviseur auquel je dois à donner son nom, M. Lamy, a suivi ce que je faisais. C'est-à-dire que, quand on s'y prêtait, à 5h30 le soir, même à 5h, nous prenions une classe qui était disponible. J'avais un appareil de projection et nous passions des films en 16 mm. Bon. Et puis, les élèves étaient tellement passionnés et le professeur trouvait tellement intéressant qu'un professeur de lettres mis dans son blason le cinéma, qu'il a fait construire une petite salle de 300 places, ce qui a été vraiment un événement. Alors à ce moment-là, il y avait tout, évidemment, on avait demandé à un opérateur de venir, la salle de projection était parfaite à tous les points de vue, et alors, toutes les semaines, le vendredi, après les cours, c'est-à-dire vers 5 heures, les élèves venaient nombreux, souvent la salle était pleine. Je dois dire qu'à ce moment-là, la distribution des films en 16 mm était extraordinaire. On avait pratiquement tous les grands classiques de l'histoire du cinéma. En particulier, des films qu'on ne voit plus maintenant, ainsi La couronne de fer de Blasetti, qui est un film absolument vertigineux par son baroque et son expressionnisme, nous l'avons présenté. Nous avons présenté des Rossellini, des Tati, enfin des westerns, un film de Howard Hawks, Big Sky, qui a fait une sensation prodigieuse. Et après, je faisais donc une introduction de 20 minutes. Ensuite, le film passait et il y avait un débat qui parfois se prolongeait très tard, ce qui inquiétait beaucoup les parents d'élèves, voyant que leurs élèves n'étaient pas encore rentrés. Que représente pour moi cette activité? Ah, je pense que le rôle d'un professeur, enfin de tout enseignant, même d'un instituteur, c'est de faire aimer ce qu'il aime, naturellement, s'il pense que ça en vaut la peine. Or moi, dès l'âge de 8 ou 9 ans, j'étais au cinéma, j'ai vu les premiers Charlot, enfin les premiers, ceux qui passaient en 1917-18, et je voulais faire aimer le cinéma au plus de gens possible. Mais le faire aimer, c'était évidemment le faire connaître. Alors, donc, j'ai étudié les films, non pas seulement du point de vue de l'histoire. Pour moi, le cinéma n'était pas simplement une narration. Le cinéma était un mode d'expression privilégié qui donnait à ce qui était représenté une certaine qualité d'existence. Ce qui fait qu'à l'écran, une histoire pouvait devenir une épopée, un conte de fées, une satire, une divagation ou une espèce de romanesque. Alors là, s'est passé en moi quelque chose, un événement qui cheminait certainement de mon inconscient et que j'ai immédiatement développé. J'ai pensé qu'il y avait une relation entre l'enseignement des lettres et l'enseignement du cinéma. Mes élèves de grec et de latin, et naturellement ceux des autres classes, fréquentaient assidûment la salle, alors je leur ai montré exactement ce que je viens de dire. C'est que entre Homère et Virgile, donc poète épique, et le western, d'un autre côté, il y avait une relation. Entre la tragédie grecque, celle de Sophocle et de Eschyle, et le film noir, il y avait une correspondance qui était basée sur le sens de la fatalité. Enfin, dans les comédies, les relations entre Molière et, en remontant plus haut, Claude, et la comédie, en particulier la comédie américaine, quelque chose. Plus subtilement, je pensais qu'il y avait des affinités entre, par exemple, Marivaudage et Fantaisie de René Clair. Enfin, bref, la relation a été maintenue. Alors, vous me demandez, c'est la cinquième question, si j'ai pu concilier ma position de professeur et mon action militante. Eh bien, je crois y avoir répondu. Alors, rapport avec les collègues, nul. J'ai eu deux collègues qui sont venus, alors qu'au contraire, de toute la France et même de toute l'Europe, des gens savaient que ce ciné-club existait et venaient nous voir. Ainsi, André Delvaux, auquel j'ai consacré un livre et qui a fait un film admirable qui s'appelait « Rendez-vous après », un autre, non moins beau, Un soir à train, est venu me voir. Chabrol est venu, Truffaut est venu, aussi bien des gens de la nouvelle vague que des gens anciens. Alors, les élèves, au contraire, m'ont été profondément reconnaissants. Et je dois dire que le cinéma a été un point de polarisation entre eux et nous. Les collègues n'étaient pas très très contents, car j'étais, je le dis en toute simplicité, évidemment, un des professeurs aimés, le plus aimé du lycée Voltaire. Et alors, évidemment, les collègues sentaient bien qu'il y avait une qualité de relation entre nous, entre mes élèves et moi, qu'ils ne connaissaient pas eux. Alors, comment fut créé, c'est la sixième question, la classe préparatoire à l'EDEC. Ah, alors là, il y a eu un événement extraordinaire. J'étais en rapport très amicaux avec l'EDEC et en particulier avec quelqu'un qui était devenu le patron de l'EDEC, Léon Moussinac, et qui était un marxisme de la bonne époque, c'est-à-dire un disciple de Marx, mais tout à fait aéré, et qui avait été un des premiers à faire connaître Griffith et le western. Et de l'autre côté, il y avait une inspectrice extrêmement ouverte et cultivée qui s'appelait Madame Brunswick. Alors d'un côté, j'ai expliqué à Moussinac ce que je souhaitais, lui était ravi de penser que le cinéma pouvait entrer dans un lycée, et Madame Brunswick, qui était une personne justement dans la culture, l'ouvrait à tout, à la musique, aux beaux-arts, en particulier au cinéma, a dit oui. Et un jour mémorable de 1948, il y a eu à la Sorbonne même, avec quelques hautes personnalités, une réunion où était votre serviteur, et puis Léo Moussinac et Madame Braunschweig. Et après cette réunion, on a dit, eh bien voilà, il y a pour normal, polytechnique et centrale, des lycées dans lesquels on prépare au concours. Eh bien, pourquoi ne pas créer au lycée Voltaire une classe où on choisira naturellement par un examen d'entrée les meilleures copies, et à ce moment-là, on leur fera voir le programme. Le programme de l'IDEC était d'ailleurs un programme très complet. Il y avait histoire du théâtre, histoire du roman, naturellement études des films, connaissance des metteurs en scène, mais il y avait également des langues vivantes, de la philosophie et de la musique. Cette classe de 48 a duré pendant une vingtaine d'années. Et alors là, évidemment, s'est créée une camaraderie avec les élèves. Là, j'ai présenté les grands classiques, depuis les classiques de l'époque, depuis les classiques de la fin du muet, comme l'Aurore, jusqu'à des films plus modernes, les films de Tati en particulier, les visites de Monsieur Lou ont un succès considérable. Deux anecdotes, mon Dieu, il y a toujours eu un petit côté amusant, si vous voulez, je ne sais pas si c'est une anecdote, une fois j'ai présenté Les Visiteurs du Soir, de Jacques Prévert et Marcel Carnet. Et alors là, j'ai fait l'éloge du film, je l'ai présenté comme un chef-d'œuvre. Tout le monde m'a suivi. Alors au bout d'une demi-heure, j'ai dit, eh bien, chers amis, je vous ai mystifié, car il apparaît aujourd'hui que Le Visiteur, c'est un faux chef-d'œuvre. Et j'ai repris les films depuis A jusqu'à B, et je l'ai démonté. Ils étaient dépités, mais ils ne m'ont pas voulu, car ils me faisaient confiance. En même temps, alors, un autre aspect de ces années-là, je suis laissé emmener au musée du Louvre. Et en même temps, là, ils ont vu des tableaux, non seulement la classique Joconde, mais toutes sortes d'œuvres un petit peu moins connues. Et je les ai emmenés également au théâtre. Je me souviens du théâtre Sarah Bernhardt, qui est devenu le théâtre des Nations. Alors là, on a vu le Jules César de Shakespeare, et après, on a eu des débats. En tout cas, ce qu'il y avait de courant entre eux, ce qui est au-delà de l'anecdote, il y avait une familiarité. Par exemple, un jour, un garçon un peu farfelu, mais qui avait du style, à propos de Pyrrhus, a dit que Pyrrhus était un playboy. Pyrrhus playboy, il faut le dire. Moi, je ne me suis pas fâché, au contraire, j'ai enchaîné, j'ai dit, eh bien, comment se comporte ce playboy à propos d'Hermione? Voilà. Donc, l'amitié, la confiance, je dirais presque quelque chose de fraternel, était entre nous. Alors, à ce moment-là, évidemment, la classe était devenue, évidemment, unique dans toute la France. La neuvième question que vous me posez, c'est, avez-vous été un jeune cinéphile? Comment cette passion vous est venue? Oui, là, il faut que je raconte toute ma vie. Et ce n'est pas la première fois qu'on me le demande, mais enfin, je vais le redire encore. Je suis pupille de la nation, c'est-à-dire que j'ai perdu mon père à la guerre de 14, en novembre 14. Et maman n'avait fait aucun métier. Elle s'est improvisée dame déléguée à l'assistance publique qui s'occupait de ce qu'on appelait alors les filles-mères et qu'on appelle aujourd'hui les mères célibataires. Elle travaillait Elle a travaillé, c'est pour ça que pour moi, c'est une sainte et j'ai une vénération pour sa mémoire. Mais tous les deux, nous vivions une vie difficile et vraiment plus que modeste. Et il y avait dans notre vie une évasion. Cette évasion, c'était aller au cinéma une fois par semaine. Et Dieu merci, à cette époque heureuse, qui était dans les années 25 et 26, il y avait ce qu'on appelle des salles de quartier. C'est-à-dire que avant de passer, dans les grands cinémas du centre, eh bien, les films passaient dans des petites salles. Nous, c'était le 15e. Nous habitions du côté de la Motte-Piquet-Grenelle et nous allions tous les deux et nous voyions des films. Alors là, j'ai eu la chance de voir, je l'ai dit, un Charlot soldat et après une vie de chien, tous les Charlots. Et je dois dire que pour les gens de mon âge, et j'espère pour d'autres, Charlie Chaplin a été un de ceux qui a été le plus marquant. Bon, il est peut-être temps maintenant que je vienne à la 10e question. 40 ans après, quel souvenir gardez-vous du lycée Voltaire? Je pourrais répondre d'un mot, excellent. Oui, le lycée Voltaire appartient à un quartier qui n'est peut-être pas le quartier le plus smart de Paris, mais ça n'a pas d'importance. Le quartier Voltaire, l'avenue de la République, reste un lieu où j'ai vécu des jours heureux. J'ai eu deux proviseurs, coup sur coup, qui étaient très gentils, et il y avait dans l'air de Voltaire une espèce de, comment dire, non pas de pousser vers la gauche, mais si tout de même il faut le dire, le lycée Voltaire a toujours été hostile à l'extrême droite. J'espère que je ne vais pas heurter des auditeurs en disant ces mots-là, mais en effet, la gauche, chez les étudiants et chez les professeurs, était la dominante de Voltaire. Eh bien, moi, je me suis considéré toujours comme étant anarchiste, n'étant ni de droite ni de gauche. Mais évidemment, l'anarchiste est plus proche de la droite. Ce que j'aimais à Voltaire, c'est qu'il y avait un climat, oui, le climat de Voltaire, qui favorisait justement le fait de bouger, de remuer. Voltaire, ça n'est pas un lycée statique. D'autres lycées sont peut-être statiques, eh bien Voltaire ne l'est pas. Voltaire, ça bouge, ça remue. Et à Voltaire, réussissaient les gens qui étaient comme ça. Il y a une autre raison pour laquelle Voltaire reste cher à mon cœur, c'est que là, j'ai rencontré deux professeurs, Georges Albert Astre et Jean-Louis Bory. Ces deux professeurs restent parmi mes amis les plus chers et ceux pour lesquels j'ai la plus profonde admiration. Aujourd'hui, quand je pense à Voltaire, il n'y a pas une ombre de mélancolie. Je n'ai jamais eu d'ennui. J'avais des collègues qui n'aimaient pas le cinéma, d'autres, comme Astre et Bory, qui étaient férus de 7e art, mais dans l'ensemble, je dois dire que c'est les contacts avec les élèves. La cour de récréation de Voltaire, où je retrouvais des jeunes de seconde, de première, de philo, reste un des endroits privilégiés. Et au ciné-club du lycée Voltaire, là encore, cette amitié se resserrait. Par conséquent, aujourd'hui, je remercie l'association AALVP, Amicale des anciens élèves et professeurs du lycée Voltaire à Paris, je remercie cette association d'avoir fait appel à moi. Il est très doux, quand on est noagénaire, de revoir son passé, du moins quand la vie est réussie. Je dois dire que, si je peux dire que ma vie est réussie, ce n'est pas seulement que j'ai eu un mariage où j'ai tout partagé avec ma femme, que j'ai eu en particulier parmi ma postérité deux petites filles, dont l'une maintenant s'occupe de l'ethnographie et de l'autre s'occupe de cinéma, Sarah et Marie, c'est parce que, à Voltaire, j'ai pu me dilater. J'ai pu me dilater, oui. Eh bien, avec les élèves, j'avais une sorte d'amitié tendre. Voilà, Voltaire, c'était l'amitié tendre. Et le lieu de Voltaire, où sont venus des gens comme Louis d'Aquin, comme Grémillon, est un lieu qui favorisait les échanges. Eh bien maintenant, j'ai de la chance, je suis dans l'Aveyron, à Decazeville, dans un lieu où dès que je suis arrivé, les gens que je croisais dans la rue ou dans les magasins m'ont dit « Ah, nous, ici, nous aimons les contacts et les échanges. » Eh bien voilà. Voilà ce que le cinéma me donne. Un moment privilégié où se crée entre les gens une parenté, où les affinités électives sont grandes. Hélas, ce n'est pas le fait de la totalité des Français. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'aller voir un film de Costa Gavras, celui qui a fait Z. Ce film intéressant s'appelle Le Couperet. Il y avait trois personnes dans la salle. Alors là, ce qui est grave, c'est que le public, même les traits, même les cadres, aiment ce qui les fait rire. Et permettez-moi un mot grossier, ce qui les fait rigoler. Eh bien, je dois dire que Voltaire, c'est pour moi le monde de l'adolescence. J'étais plus en contact avec les jeunes qu'avec les adultes. Voilà. Et je me sens, quand je pense à Voltaire, rajeuni. Merci donc à cette amicale d'avoir pensé à moi et de me permettre d'être revenu, d'avoir fait, comme le disait Constantin Weyer, un homme se penche sur son passé. En tout cas, je reste à la disposition de l'amicale et des anciens élèves qui voudront bien s'adresser à moi. J'habite donc 66 rue Queyrade à Decazeville et mon numéro de téléphone est 05 65 43 53 84. Je le répète, 05 65 43 53 84. En tout cas, soyez tous assurés de ma chaleureuse proximité.